Sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission, vous allez voir, qui va jouer, mais vraiment tout en contraste, mais vraiment carrément en contraste. Vous savez, la magie du jazz, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul jazz, en fait. Il y a plein de jazz et il y a forcément dans tous les jazz, il y en a un qui va vous plaire et vous parler au cœur. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va faire un grand écart entre le groove de la guitare sensuelle de notre invité de première partie, qui n'est pas encore là, donc il va falloir que j'improvise, mais il va franchir le seuil de la porte d'une minute à l'autre. C'est le guitariste Hugo Lippi d'un côté et de l'autre le manifeste onirique d'une harpiste qui nous livre un album très engagé sur la cause des femmes en solo. C'est l'harpiste suisse Julie Campiche. Vous allez voir deux univers qui sont tout en contraste et qui chacun, d'une certaine manière, nous prenne à témoin. Alors, on vient d'entendre là un premier morceau de l'album d'Ugo Lippi, Hola Maria, qui vient de sortir sur le label Caramba. Album, Ugo Lippi, on ne le présente plus, puis on attend qu'il arrive pour qu'il se présente lui-même, et je crois qu'il n'est pas loin, si je vois les SMS sur mon téléphone. Ugo Lippi, c'est un guitariste hors norme que toute la France entière connaît, primé à l'Académie Charles Cros, prix Django Reinhardt, qui s'est produit un petit peu partout, sur à peu près sur tous les festivals de France et de Navarre, qui a joué avec les plus grands sur la scène française, que ce soit avec Michel Legrand, avec Biréli Lagrène, avec Pierrick Pedron, j'en passe, et des meilleurs, mais aussi avec Mélodie Gardot, avec Christian McBride, Grégory Hutchinson, Robin Rogers, Joe Martin, Peter Bernstein, enfin, j'en passe, et des meilleurs. Et Ugo Lippi, il a ce truc de pouvoir s'approprier à peu près tous les matériaux pour en faire quelque chose qui l'amène sur son propre terrain, qui est un terrain, je disais, c'est la guitare sensuelle, c'est la guitare velours en quelque sorte. Et pour cet album, Ugo Lippi est allé dans des directions assez différentes, mais avec une idée derrière la tête dont il va nous parler, qui est celui de rendre hommage à un label mythique, le label de Creed Taylor, le label CTI, mais on le connaît aussi pour le label Impulse. Creed Taylor était quelqu'un qui voulait faire le lien, qui faisait le lien entre le jazz et la pop musique, avec un son et une atmosphère vraiment tout à fait particulière. Et je crois que c'est ce son qui a nourri les souvenirs d'enfance d'Ugo Lippi, et c'est un peu de ça dont il voulait s'inspirer. Il voulait s'inspirer du studio CBE, qui en 1966 était le premier à s'équiper d'un magnétophone 8 pistes, enfin en tout cas pour la partie en France, et c'est là qu'il est allé enregistrer, voilà, et avec une espèce de son qui est un son de l'époque. Alors, vous l'avez peut-être entendu, là, on entend des références à Wes Montgomery, bien sûr, à Kenny Burrell, à Jim Hall, et sur le premier morceau qui s'appelait Do It Again. Mais je vous propose qu'on écoute, en attendant l'arrivée du Ugo Lippi, je vous propose qu'on écoute un deuxième morceau, c'est le titre éponyme de l'album, et on va écouter Hola Maria. Thank you. en principe, on attend le moment de silence après la musique, parce que, comme on disait, le silence après la musique, c'est encore de la musique. Et on est ravi de recevoir notre invité qui a finalement franchi la porte. Je vais laisser dire son nom lui-même.
C'est Hugo Lippi, bonjour à tous.
Hugo Lippi, bonjour, merci d'être avec nous pour la présentation de cet album, Hola Maria, sorti sur le label. C'est le label Caramba ou For Musician Only? Je n'ai pas bien compris.
Le label, c'est surtout For Musician Only.
For Musician Only, oui, parce que...
Caramba, évidemment, est partie prenante.
Puis il y a un rôle très important, mais le label, vraiment, c'est For Musician Only.
D'accord. Donc Hola Maria qui vient de sortir et qu'on va retrouver, je le dis tout de suite comme ça on est sûr de ne pas l'oublier, qui sera présenté au studio de l'Ermitage le 10 mars.
Le 6 mars au studio de l'Ermitage, voilà.
Voilà. Alors moi, en vous attendant, je disais, j'espère pas dire de bêtises, je disais que cet album c'était quand même un petit peu aller sur vos souvenirs d'enfance ou en tout cas de jeunesse où vous avez été bercé par la musique de Creed Taylor, enfin pas de Creed Taylor mais que produisait Creed Taylor et du label CTI. C'est quelque chose, c'est une démarche que vous aviez dans cet album de reproduire un son, une atmosphère, quelque chose.
Alors une atmosphère oui et puis une philosophie parce que pour moi, ce qui distinguait Creed Taylor, parce qu'évidemment, on peut pas le résumer ni à quelques artistes, ni alors je me rappelle pas exactement le temps d'activité de ce label, mais je pense qu'il a vraiment fourni beaucoup pour. Je pense que ça a commencé dans la fin des années 60.
Il a fourni votre discothèque en vinyle, j'imagine.
Alors, oui, alors la mienne, celle de mes parents, celle de mes amis aussi, parce que c'était une époque où la musique était assez transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on était imprégné parce qu'il passait chez les amis et chez les parents, parce qu'on était, peut-être moins, un peu moins isolés de par le fait qu'il n'y avait pas tant de sources sonores que ça. Donc en général, ce qui passait sur la chaîne du salon, tout le monde en profitait, alors que maintenant, peut-être qu'on peut davantage s'isoler. Et donc, effectivement, Creed Taylor a fait quelques disques, je pourrais en citer quelques-uns, mais c'est vrai que celui qui me... Il y en a deux qui me viendraient vraiment en tête, ce serait peut-être le Bad Benson, donc de George Benson.
C'est une de vos idoles, George Benson?
Ouais, bien sûr. Bah, quand on est guitariste, c'est difficile d'y échapper.
Ouais, mais sauf erreur de ma part, mais peut-être que je me trompe, je vous ai jamais entendu chanter.
Non, j'ai pas,
venir,
j'ai pas poussé jusque-là.
Au studio de l'Ermitage, venez au studio de l'Ermitage.
Oui, c'est vrai. Mais alors oui, c'est, quand même, il y avait du chant, mais c'était quand même, ce sont des disques où il y avait quand même une très très grande partie instrumentale. J'aurais aimé chanter, mais en fait, moi, ce qui me plaisait dans cette philosophie, c'est le côté totalement hétérogène et hétéroclite du répertoire. Sur le papier, qui devenait totalement homogène par la suite. Et en fait, si quelque chose m'a inspiré, que je dois retenir quelque chose de Creed Taylor, au-delà d'un son, d'une certaine philosophie qui va aussi avec ces années-là. Bon, moi, je suis né en 77, donc évidemment, je n'ai pas grandi dans les années 70. Mais la façon dont je le perçois, c'est l'audace et...
Alors c'est ça, là vous me tendez une perche, parce que justement c'est, alors je disais en vous attendant que Creed Taylor, on avait l'habitude de dire c'était celui qui avait jeté des ponts entre le jazz et la pop musique, mais ce que vous dites sur le fait de s'inspirer de matériaux très différents pour en faire une unité, moi je l'ai ressenti complètement dans cet album, où vous allez, en fait vous auriez pu encore aller chercher beaucoup d'autres choses, mais vous allez chercher par exemple Hola Maria qu'on vient d'entendre, vous allez chercher par exemple l'hymne à l'amour joue Stéphane Belmondo, vous allez chercher dans des pièces classiques, vous allez chercher dans des univers, vous allez même chercher du Kate Bush, je sais pas, on dit Kate Bush ou Kate Bush,
Kate Bush,
Bush, Kate
Bush,
hein, Kate Bush, oui.
Tout dépend des endroits dans le
temps. Ouais, c'est ça. Et voilà, et dans plein d'univers complètement différents, et puis avec différentes guitares, différents types de guitares, ouais. Et pour en faire quelque chose qui est justement très homogène. C'est un travail, ça, que vous avez fait volontairement ou chercher sur le son. Pardon de vous interrompre aussi, parce qu'il y a le côté groove qu'on connaît bien du Hugo Lippi et qu'on adore, mais moi, ce que je découvre aussi beaucoup plus dans cet album, c'est le côté harmonique, recherche sur les harmonies, oui. qui m'a beaucoup frappé aussi dans cet album.
C'est-à-dire que moi, le jazz, justement, c'est une façon dont je le conçois, c'est que je trouve qu'on est toujours dans un espèce d'équilibre entre les deux, entre justement la force mélodique mais également la richesse harmonique. Et moi, j'ai pu passer des heures et des heures à trouver, parce que là, l'harmonie, ce sont des équations. Et puis, comme beaucoup d'équations, alors j'étais plus fort en harmonie qu'en mathématiques, je tiens à le préciser, mais c'est-à-dire qu'on a, y a quelque chose de passionnant, puisque ce sont des clés, l'harmonie, en fait. C'est-à-dire qu'on on comprend un système, et une fois qu'on a compris ce système, ça ouvre énormément de oui. portes de cette façon-là, et on se rend compte de la multiplicité des pistes.
Là, on l'a entendu hein, dans Ola Maria.
Ah, voilà, alors... Dans Ola Maria, il faut rendre grâce et hommage à Gaël Racoton-Drabé qui justement lui joue totalement en résonance et de par sa créativité, voilà, le pianiste du disque, et qui justement est capable de creuser des chemins et tout le temps, ce qui est très fort, parce que on met un savoir au service d'une mélodie, c'est ça, parce que l'harmonie, après, le problème, c'est que on a tellement de pistes, particulièrement quand on est pianiste, mais également guitariste, on a tellement de pistes sous les doigts que parfois on pourrait s'y perdre. Et ce qui est fabuleux dans cette version, c'est qu'avec Gaël, on sent qu'on est toujours habité par le chant et par le sens profond de la chanson. Et je pense que c'est parfois ce qui peut, dans certains contexte de jazz, il faut jamais oublier qu'on est là pour servir une mélodie. Et pas l'inverse. La mélodie n'est pas là pour simplement comme prétexte pour servir nos accords.
Vous savez, en préparant cette émission, j'ai choisi trois morceaux, comme je le fais toujours. Et puis là, dans le métro, en venant, je réécoutais votre album et je réécoutais l'hymne à l'amour que vous jouez avec Stéphane Belmondo. Oui. Et je me disais, mais Hugo Lippi, il chante là. Je vous entendais chanter, en fait. J'entendais chanter votre guitare.
Bah, alors si.
Et je me demandais si justement les paroles vous inspirent particulièrement.
Ah, totalement, bien sûr, totalement, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas la dramaturgie. Souvent, j'essaye de quand même parfois de coller au texte, mais parfois de presque le réinterpréter. C'est-à-dire qu'un morceau comme Do It Again, entre la façon dont je le percevais avant de comprendre les paroles et une fois que je les avais traduits. Parfois j'aime bien m'approprier aussi cette dramaturgie dans un morceau. C'est-à-dire que pour moi, comme souvent dans les morceaux de Steely Dan, le texte a beaucoup d'importance. Et moi, j'ai essayé plutôt, je me suis concentré sur le côté, parce que c'est un texte finalement assez sombre, alors que pour moi, dans mes premières écoutes, de par sa mélodie et de par sa façon d'évoluer, j'entendais beaucoup de lumière et je suis resté peut-être sur quelque chose de lumineux. Donc, je n'ai pas nécessairement de transcrire littéralement ce que veulent dire les paroles. En revanche, j'y attache beaucoup d'importance et j'essaie de m'approcher au maximum avec la guitare. J'essaie de faire comme si la guitare était en train de chanter et en train de s'exprimer.
Ouais. Alors, aussi, en écoutant cet album, il y a, c'est ce que je disais aussi à l'antenne tout à l'heure, on entend des références qu'on connaît chez vous. Wes Montgomery, Kenny Burrell, Jim Hall, voilà, entre autres, voire même, je rajouterais même un Tal Farlow, par exemple.
Bien sûr.
Et vous savez quoi ? En écoutant votre album, j'entendais une autre... On parlait justement de la mélodie, de la façon de faire chanter la guitare. J'entendais une autre référence, celle de Sylvain Luc.
Ouais, bien sûr.
C'est quelqu'un qui vous a...
Bien sûr, mais je fais partie de cette génération. De toute façon... Il y a eu ce disque, il y a eu deux grands. Alors moi, j'ai eu la chance de jouer aussi avant bon, Sylvain, évidemment, on connaît évidemment la tragédie de sa disparition. Mmh. Et j'ai été marqué par aussi moi, Marc Fossé et Christian Escoudé, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer.
Oui, bien sûr.
Mais Sylvain Luc et Birelli Lagraine sont des figures auxquelles on pouvait difficilement échapper, qui ont formé l'identité de la guitare en France. Et effectivement, Sylvain, alors c'était difficile d'être influencé par Sylvain, parce qu'il était tellement... Oui. Il y avait quelque chose de très inaccessible. C'est un guitariste absolument génial, de génie. Et bien sûr, il m'a bercé, mais pas évidemment sur le guitaristiquement, mais aussi dans les climats qu'il pouvait, dans les univers qu'il pouvait créer.
C'est ça.
Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, même de jouer un tout petit peu avec lui autour un peu de Michel Legrand. Et je regrette quand même, parce que je sais que c'est quelqu'un avec qui je l'ai su aussi par des amis qui lui étaient proches. J'aurais beaucoup aimé passer plus de temps avec lui, parler davantage musique. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de choses à se dire, il aurait eu beaucoup de choses à m'apprendre. Et évidemment, c'est une influence comme l'a été d'ailleurs Biréli Lagrène, et il l'est toujours. Mais ce sont des gens qui ont ouvert des portes, ouvert des voies et qui sont uniques en leur genre. En
absolument. Alors, en revanche, il y a les gens qui vous accompagnent dans votre. J'ai cru lire que cette formation est une formation qui était née au Duc des Lombards, où je me suis trompé à l'occasion de Reflection in Bee, c'est ça, non?
Oui,
c'est...
bien sûr. Alors, il faut rendre hommage justement au label For Musician Only que Manu Paluo a su créer. Il a su fédérer toute cette énergie et un peu cette communauté née autour du label. C'est vrai que le premier concert a eu lieu au Duc des Lombards, effectivement. Et en fait, que ce soit donc évidemment Gael Racozandrabé dont on a parlé, que j'avais croisé à
donc
divers
piano,
moments,
dans
les, parce qu'il, notamment avec Ulf Koltmann dans quelques autres contextes. Et Laurent Werneret, Denis Benaroche, qui sont évidemment des musiciens qu'on ne présente plus, qui ont une telle carrière.
Et quand même, pour les auditrices et auditeurs, Laurent Werneret à la contrebasse et Denis Benaroche
oui,
à la
batterie. Oui, bien sûr, Laurent Werneret à la contrebasse, et qu'on connaît aussi beaucoup en tant que bassiste électrique,
oui.
Et Denis Benaroche. Mais en fait, quand je dis que tout le monde les connaît, c'est que tout le monde les a entendus, dans la mesure où ils sont à peu près énormément de disques qu'on a pu entendre... Et donc même inconsciemment, les gens les ont entendus, même sans savoir.
Oui, oui.
Et je me suis rendu compte qu'on avait, que ce soit avec Laurent ou Denis, lors de nos discussions, bah c'est ça qui crée aussi un groupe. Hein. C'est, évidemment, il y a sur scène
les affinités.
En dehors, et on a pu parler. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ces gens, c'est leur dévotion à la musique. Et on pourrait passer des heures. Et je pense que ça aurait été probablement la même chose avec Sylvain Luc. C'est-à-dire que la passion pour la musique est intacte. Et on peut parler de certains disques qui m'ont bercé. Parce qu'évidemment, il y a eu CTI, mais il y en a eu d'autres. Et je me rappelle d'une discussion pas loin dans l'Est de la France avec Laurent Werneret autour d'un disque d'Al Jarreau qui s'appelle Breaking Away. Je me suis rendu compte, et ça c'est formidable, d'avoir cette impression d'avoir... ressenti les mêmes choses au même moment dans le disque, y compris dans les moindres détails. Et voilà, ça s'est imposé naturellement parce que je savais que le concert allait être bien, ne serait-ce qu'en discutant avec eux avant, en fait, et que la formation allait être bien. Et en plus, ils ont une telle expérience de studio que c'était évidemment très enrichissant.
Et alors, il y a un invité spécial, tout jeune, qui vient vous accompagner, qu'on a eu l'occasion, pour certains, les privilégiés, de découvrir au studio Ferber il y a quelques mois. Hugo Guesbar.
Oui, Hugo Guesbar, c'est...
Mais pour... qui est Hugo Guesbar?
Alors, je pense que dans pas longtemps, on ne se posera plus la question.
Oui.
C'est un jeune guitariste que j'ai eu l'occasion de croiser comme souvent, parce que la famille de la guitare jazz est quand même... On arrive tous, au bout d'un moment, à croiser nos chemins. Et Hugo m'a marqué, parce que bon, c'est évidemment un guitariste exceptionnel, et il y en a quelques-uns maintenant, de plus en plus jeunes, évidemment. Mais en plus avec une maturité, une intelligence, une sensibilité. Et il se trouve qu'en plus, on est récemment voisins à Montmartre. Et donc, on a beaucoup partagé ensemble. Et c'est un peu la même chose, le même parallèle. C'est-à-dire que...
Il est tout jeune. Vous n'êtes pas tout à fait de la même génération.
Ah non, c'est même arrivé dans certains endroits qu'on le prenne pour mon fils.
Okay,
voilà, il a...
Mais je trouve ça vachement sympa d'inviter comme ça un jeune guitariste et lui donner un peu de lumière, c'est chouette. Ça vous arrivait à vous-même?
Bien sûr, moi j'ai surtout Marc Fosset qui m'avait mis le pied à l'étrier sur beaucoup de choses, y compris on avait enregistré un disque dans lequel je jouais les solos, lui accompagnait, c'était un peu son initiative. Et malheureusement, j'ai pas su le... On avait la bande, c'était fait sur Tascam et tout ça. Et je rêverais de retrouver la bande, mais tout était mixé. Il avait fait le... Et évidemment, Christian Escoudé, avec qui j'ai pu... Mais bien sûr, il y a toujours un passage témoin comme
passage
ça. Et je pense qu'il faut garder ça, et avec bienveillance. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on apprend mutuellement. C'est-à-dire que moi, j'apprends beaucoup quand j'écoute Hugo et quand je pense que Marc Fosset, c'est aussi
c'est
un échange. Voilà.
C'est beau, tout ça, hein, bien sûr.
Et donc, je pense que la lumière, de toute façon, avec le talent qu'il a, il l'aura.
Ouais, on l'a entendu au studio Ferber, effectivement, ça ne fait aucun doute. Ouais.
Bah, voilà, donc, mais c'est aussi. Mais effectivement, je suis content moi, j'ai profité un peu de ce passage. De témoin, et je suis content de faire partie de ça. Ça me paraît être quelque chose d'important.
C'est en tout cas très généreux et très judicieux aussi de votre part. Je vous propose qu'on écoute un troisième et dernier titre. Cette fois, vous êtes allé chercher dans un univers totalement différent. Vous êtes allé retravailler. Vous allez voir que le travail fait sur cette pièce de Scriabine.
Oui, de Scriabine. C'est pareil, c'est une pièce que j'ai découvert quand j'étais...
Ah, il n'était pas enregistré chez CTI, hein, Scriabine, hein, pour les gens
et
qui
alors,
ne connaissent pas.
Scriabine peut-être pas, mais il y a eu beaucoup d'emprunts à la musique classique, y compris chez George Benson. Mais alors, quel titre, il faudrait que je m'y replonge, mais c'était assez fréquent d'aller chercher parfois, faire des incursions. Alors évidemment, on parle du travail de Deodato, mais même de façon, de manière plus confidentielle. Et donc, c'est dans la logique. Après, ce morceau, précisément, moi, c'était un coup de cœur que j'ai eu quand j'étais mais vraiment ado. J'avais acheté un disque de Scriabine chez Harmonia Mundi, pour être précis, au Havre, parce que j'ai grandi au Havre. Et je me suis toujours dit, c'est un jour, je jouerai ce thème-là. Mais il m'a demandé beaucoup de temps, parce que c'est extrêmement pianistique, c'est un thème très complexe, y compris pour les doigts sur la guitare.
Allez, on l'écoute.
Bonsoir, c'est Alex Dutil dans Jazzland sur Aligre FM, tous les derniers samedis du mois, 17h-18h. C'est l'heure du plaisir du jazz.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland Aligre FM 93.1 en compagnie de Hugo Lippi pour la sortie de l'album Hola Maria. Paru sur le label For Musician Only, Caramba, enfin voilà,
ouais,
les deux.
Et
là, on est d'entendre une pièce de Scriabine complètement réécrite et revisitée par Hugo Lippi. Hugo Lippi, un grand merci d'être avec nous.
Merci Jean-Marc, c'était un grand plaisir pour moi.
On rappelle la date, donc le 10 mars au Studio de l'Ermitage.
10 mars au Studio de l'Ermitage, exactement.
Ça commence à l'ouverture des portes à 20h.
Ouais,
c'est ça.
Exactement.
Donc, on rappelle, l'équipe sera au complet.
Oui.
Donc, je vous laisse rappeler les musiciens.
Alors, j'aurai Gaël Racoton-Drabé au piano. On aura Laurent Verneret à la contrebasse, Denis Benaroche à la batterie. Et deux invités qu'on surprise.
Ah, voilà. Des invités surprises. Bon, moi, je fais un pari, mais ne me répondez surtout pas, Hugo. Hein. Je me demande s'il ne va pas y avoir un ou une chanteuse. Mais Poker Face. Allez, Poker Face, vous dites rien. Hugo, vous restez avec nous ?
Bien sûr.
Alors, on a un petit problème de connexion, donc on va essayer de se connecter comme ça et on va voir si Julie Campiche. Ouais. Julie Campiche, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là. Oui.
Alors, je fais un signe à la technique. Est-ce que la technique entend bien Julie ? Est-ce que la technique entend bien Julie ? Allez-y, Julie.
Bonjour la technique. Est-ce que vous m'entendez ?
Bah voilà, c'est impeccable. Impeccable. Très bien. Julie, on est ravis de vous recevoir pour la sortie de votre album, qui est un album auquel nous, on a eu l'occasion d'assister un peu en avant-première. Album en solo à la harpe sur un concept, sur un. Moi, je dis que c'est pratiquement un manifeste que vous avez signé, qui tourne autour de plusieurs histoires de femmes. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on commence par écouter un titre de cet album, Unspoken. Ce qui veut dire Unspoken, c'est non dit en fait, en quelque sorte. Hein, c'est ça ?
Exactement, oui.
Donc, je vous propose qu'on écoute un premier titre et puis après, vous allez nous raconter comment est né ce projet. Et donc, on va écouter Andrea Besconde, puis vous nous expliquerez qui est Andrea Besconde. D'accord ? On y va ?
Avec plaisir.
On y va. Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland Aligre FM 93.1 en compagnie cette fois de Julie Campiche pour la sortie de l'album Unspoken. Julie Campiche est au téléphone avec nous puisqu'elle est, elle est en Suisse pour parler de l'album Unspoken paru sur le label, je ne sais pas si on dit Ronin ou Ronin, Ronin Rhythm Record.
Ronin, c'est plutôt en anglais.
Ouais. Le label de Nick Barsh. Alors, pour présenter, avant de parler d'Andrea Besconde, puisque c'est plein d'histoires de femmes, peut-être que pour présenter cet album, moi, j'ai envie de vous demander, qui est Charlotte Bien-Aimée ?
Alors, Charlotte Bien-Aimée, c'est elle qui a créé et qui continue de créer le podcast, un podcast à soi, qui est produit par Arte Radio. Et c'est en fait un podcast qui, moi, m'accompagne depuis des années. Il m'a vraiment, a vraiment beaucoup contribué à me faire grandir en tant que femme, être humaine, citoyenne. Et surtout, il y a ce format, en fait, où c'est vraiment, c'est un podcast où on entend principalement, enfin, 99% des intervenants sont en fait des intervenantes. Mmh. Et ça m'a... Ouais, ça m'a vraiment... Il y a plein d'épisodes qui m'ont énormément touchée. Il y en a même certains que j'ai écoutés plusieurs fois. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce format de vraiment donner la parole aux femmes. Oui, et c'est ça qui, du coup, a inspiré le format de Unspoken, qui, donc avec les outils qui sont les miens, donc la musique, de donner la parole aux femmes. Alors bon, là, je ne leur donne pas la parole dans le sens...
Voilà, si, on va l'entendre justement.
Mais voilà, je leur rends hommage. Voilà.
C'est d'ailleurs, j'ai vu une phrase dans le communiqué de presse qui m'intéressait. Dites, le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme.
Oui, alors ça, c'est une phrase qui a été attribuée à Virginia Woolf.
Mm-hmm, oui.
C'est bah, justement, du coup, cette phrase, elle fait partie du générique, en fait, d'un podcast à soi. Et c'est aussi... Enfin, il y a un peu tout, voilà, les choses se sont un peu organisées petit à petit, de manière très organique, hein, dans ce projet. C'est pas... Il n'y a pas d'abord eu un concept et puis ensuite le reste. Ça s'est fait vraiment de manière très instinctive, très organique. Et donc effectivement, à chaque fois que j'écoutais un podcast à soi, il y avait cette phrase qui me tournait un peu en boucle dans la tête, et assez rapidement, j'ai eu envie de faire quelque chose avec ça. Du coup, d'ailleurs, le premier morceau de l'album, qui s'appelle Anonymous, en fait, il est construit autour de plein de voix de femmes qui disent cette phrase, chacune dans sa langue maternelle. Et l'idée avec ce morceau, c'est vraiment de faire entendre le cœur de femmes, le cœur des anonymes. Ça représente plein de choses, mais notamment aussi, par exemple, le fait de d'effacer la femme dans l'espace public. En fait, c'est assez fort, en fait, que ce soit pas, en fait, c'est un non-sens que ce soit pas moitié-moitié, enfin, dans les grandes lignes, que ce soit pas moitié-moitié en termes d'occupation d'espace public, en termes d'occupation d'espace médiatique. Enfin, voilà. Du coup, il y a plein de raisons, il y a plein d'angles d'entrée de pourquoi les choses sont faites.
Alors, dans Unspoken, il y a un moment où vous laissez aussi la parole à certaines femmes. Je vous propose qu'on écoute un deuxième morceau, puis après vous nous direz qui est Andrea Besconde, parce qu'à chaque fois, il y a des histoires à raconter dans chaque titre. Mais là, je vous propose qu'on écoute Chrysalidis Real, d'accord ?
Oui, avec plaisir.
On écoute. Ça arrive tout de suite. Voilà.
Moi, je veux dire, moi, il faut vivre, hein. Il faut mettre double ration de rail, puis il faut foncer, là, tu vois. Faut pas s'occuper du reste.
Mmh.
pas de véritable criminalité, il y a que des souffrances. Hein. C'est vrai, moi, quand je vois ces pauvres mecs qui tournent des nuits entières, hein, avec quelques billets dans la poche, et une pauvre queue qui est tellement timide, tellement triste. Pour eux, c'est presque une souffrance d'aller faire l'amour. Ils n'ont même pas d'autre moyen d'aller faire l'amour qu'en payant. Et ça les fait doublement souffrir, ça les humilie encore davantage, quoi. C'est la liberté. Ah, l'humanité est bien malade, hein, la pauvre. Ouais, mais c'est ça qui est touchant. Ah, moi, je vais dire ce qui est important, c'est ce que t'as dans les yeux.
Alors, on a repris l'antenne. On est bien sur Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie de Julie Campiche pour la sortie de l'album Unspoken, non dit, sur le label Ronin Rhythm Records de Nick Barsch. Alors là, on a entendu Andrea Besconde en premier morceau. En deuxième morceau, là, on vient d'entendre Griselidis Real. Juste en deux mots, très rapidement, ces deux femmes, c'est quoi? Pourquoi vous avez choisi de vous arrêter sur elles?
Alors, pour chaque femme, c'est un processus différent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le choix, il est vraiment complètement subjectif. Il n'y a pas de volonté d'objectivité, il n'y a pas de... Ben voilà, c'est pas un travail d'historienne, de journaliste, de reporter.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un manifeste?
Il y a un vrai
engagement.
Pour moi, oui. Alors, c'est sûr que le travail est engagé. C'est un hommage, donc un manifeste, un hommage à la force féminine, à ces femmes en fait qui ont des parcours qui m'ont touchée, qui m'ont fait grandir, et du coup dont j'ai eu envie de faire connaître en fait leur parcours, leur travail, leur vie, leurs idées. Donc Andrea Bescon, c'est vraiment une femme qui, une artiste en tant que française contemporaine, qui est active dans plein de domaines. À l'origine, elle est danseuse, mais elle est chorégraphe, elle a produit des films, elle a produit des séries, elle a écrit des livres, elle a créé des podcasts. Et en fait, dans toute son activité artistique, elle le met au service de visibiliser, donc sortir de l'anonymat, sortir du silence, les violences qui sont faites envers les femmes et les enfants, et surtout de montrer le systémisme de ces violences. Comment en fait la société elle est construite pour permettre à ces violences d'exister, de continuer à exister, de se perpétrer, et du coup comme voilà, c'est pas parce que souvent on en parle comme d'un cas isolé, comme d'une exception, comme d'une anomalie, alors qu'en fait la société elle est construite sur l'exploitation des femmes et des enfants et de pas prendre en considération les souffrances des violences qui leur sont faites. Donc il y a vraiment, c'est systémique. Le système est construit pour ne pas bien protéger cette tranche-là de la population, les femmes et les enfants. Donc, on peut expliquer pourquoi la société fait ça, historiquement. Par contre, voilà, maintenant, c'est un choix de société de continuer à fonctionner comme ça. Et on pourrait faire le choix de ne plus fonctionner comme ça et de mettre en place des vraies politiques, des vrais changements au niveau vraiment de la structure même de la société qui permettrait à ces violences de diminuer, aux mentalités et à chacun d'évoluer, chaque citoyen, citoyenne.
On sent dans votre album, effectivement, au travers de toutes ces histoires que vous racontez, qu'il y a effectivement... moi, je trouve que c'est un album qui est très, très intime de votre part, parce que, d'abord, vous êtes en solo, vous créez un univers onirique et un univers sonore vraiment très particulier, mais surtout, on sent cet engagement que vous mettez dans chacune de ces histoires et qui, en fait, qui nous bouleverse littéralement. Chacune de ces histoires, et qu'on ait le contexte ou non, est vraiment très, très prenante. En tout cas, moi, je l'ai ressenti à l'écoute de l'album. Et alors après, effectivement, quand on plonge dans l'histoire de ces femmes, c'est encore plus bouleversant, bien évidemment. Chaque histoire est effectivement incroyable. J'ai eu du mal à choisir les morceaux à présenter aux auditrices et auditeurs. Mais justement, comment vous allez faire en concert? Vous allez, parce que d'un côté, il y a la musique qui s'écoute en elle-même. De l'autre côté, il y a effectivement chaque parcours de vie qui donne un autre sens, un autre éclairage. Comment vous allez faire en concert? Vous allez présenter les artistes, vous allez présenter les femmes auxquelles vous rendez hommage à chaque fois, ou comment vous allez faire concrètement? Parce que d'ailleurs, je vous interromps juste pour dire, puisqu'on va avoir la démonstration le 25 mars au studio de l'Ermitage lors de la présentation de cet album. Pardon.
Ouais, merci. Oui, ben justement, je suis en train de travailler le live, le show live, parce que ben, effectivement, voilà, ça fait un moment là que j'ai travaillé sur l'album. Maintenant que l'album sort, ben, il faut préparer le live. C'est encore un travail différent, et je suis en réflexion justement là-dessus, parce que bah, y a beaucoup de parcours qui sont quand même très intenses, pas toujours faciles d'accès pour tout le monde. On a toutes et tous des sensibilités quand même très différentes. Donc c'est vrai que sur scène, il faut que j'arrive à trouver, c'est une vraie question sur laquelle je travaille actuellement, d'arriver à trouver comment donner l'histoire sans pour autant aller trop loin, et que peut-être voilà, certaines personnes vont se fermer, parce que l'objectif aussi de rendre avec cette musique et de rendre hommage à ces femmes et à ces parcours et de soulever certains sujets du coup de société qui sont intenses.
Bien sûr.
Bah, l'idée, c'est aussi un peu de planter des graines, potentiellement, d'apporter une autre manière d'aborder ces thématiques, qui puissent planter des graines, qui vont se répandre
Et puis qui éveille les consciences aussi.
Qui apporte une manière de peut-être permettre à cette société de petit à petit évoluer sur ce sujet.
Absolument. Et qui éveille les consciences.
Pour ça, c'est vraiment important de rester ouvert. Donc peut-être, je suis en train de réfléchir peut-être à... Bon, c'est sûr que je vais en parler vite fait sur Sam, mais sans rentrer trop dans les détails. Et par contre, d'avoir... Pour moi, c'est quand même important de que celles et ceux qui sont intéressés à aller plus loin puissent avoir
absolument.
Accès. Donc peut-être qu'il y aura des documents à disposition, des QR codes qui amèneront vers certains liens pour pouvoir approfondir certains sujets.
Mais je pense que c'est
ceux qui ont envie d'aller plus loin. Voilà.
C'est important, effectivement.
Pour que personne se sente violenté.
Alors, Julie, on rappelle donc la date du concert, le 25 mars. Malheureusement, le temps passe vite, il va falloir qu'on se quitte. Mais justement, c'est livrer l'exercice pratique. On va se quitter avec Las Patronas. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, qui sont Las Patronas? Vous l'aviez déjà expliqué, une histoire, c'est des femmes assez remarquables.
Las Patronas, c'est un groupe de femmes au Mexique qui, chaque jour, cuisinent des repas et vont les distribuer à des personnes qui passent sur un train de marchandises. En fait, il y a un train de marchandises qui traverse l'Amérique centrale en direction des États-Unis. Et il y a beaucoup de gens qui montent sur ce train pour... émigrer aux États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure, qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays pour les raisons qui sont les leurs. Et du coup, ces personnes voyagent sur ce train de marchandises, mais comme c'est un train qui n'est pas habilité pour recevoir des gens, c'est un voyage qui est très dangereux. Ils voyagent pendant des jours et des jours. Ce train se fait appeler la bestia, la bête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent en faisant ce voyage. Et du coup, ces femmes, Las Patronas, se mettent le long de la voie chemin de fer. Et quand le train passe, elles jettent de la nourriture et de l'eau à ces personnes qui sont sur ce train pour les aider, à faire ce trajet.
Incroyable. Merci beaucoup, Julie. On va écouter, donc on va se quitter avec Las Patronas. On rappelle le titre de l'album, Unspoken, sur le label Running Rhythm Records. On rappelle aussi votre date à l'Ermitage, le 25 mars. Peu de temps avant, le 10 mars, il y aura Hugo Lippi qui est avec nous, qui viendra présenter l'album Hola Maria, paru sur le label For Musicians Only. Merci beaucoup, Hugo. On va se quitter avec ce dernier titre, Las Patronas. On se retrouve la semaine prochaine à suivre Lusitania. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission qui sera consacrée au label Yolk, label nantais. On va présenter pas mal de choses. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur le site d'Aligre ou tous les mercredis à 20h. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao. Au revoir Julie, au revoir Hugo.
Au revoir, merci beaucoup.
À donde estés yo estoy contigo. À donde vayas yo estaré. A donde estés yo estoy contigo. A donde vayas yo estaré. Mucha la distancia y estrecho el camino, porque nos separa el espacio, pero nos une el tiempo. donde estés, yo estoy contigo. A donde vayas, yo estaré. Aunque sea mucha la distancia y estrecho el camino, porque nos separa el espacio, pero nos une el tiempo.
FM 93.1.